Thibaut de Rouvray, bonjour.
Bonjour Mathias Terrier.
C'est une joie de vous retrouver pour parler avec vous de notre patrimoine local, au fond. Vous êtes historien, vous êtes président de la Société académique des Hautes-Pyrénées, et avec vous, aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'art baroque. L'art baroque, alors je ne sais pas si les artistes baroques se sont dits baroques à l'époque où ils ont exercé leur art, mais en tout cas, nous allons, nous, essayer de traverser cet art baroque. Bon, non pas tout, parce que l'art baroque, c'est de la musique, c'est bien sûr des constructions, du façonnage, des lieux, des décorations. Et c'est justement cela aujourd'hui auquel nous allons nous intéresser. C'est l'art baroque dans les églises.
Voilà, qui s'est particulièrement illustré dans toute l'Europe et en particulier dans la région Occitanie, avec, comme vous soulignez, ce terme hein, qui est un peu mystérieux. Alors, il y a toujours une idée d'après le dictionnaire de Guitré, quelque chose qui est baroque, c'est quelque chose qui est d'une bizarrerie presque choquante, qui est exubérant. Et je pense que les artistes qui le pratiquaient ne se qualifiaient pas eux-mêmes. Hein, ce sont par la suite des historiens de l'art qui ont théorisé et qui ont inventé ce terme.
Oui, ce qui caractérise le baroque, c'est que, en effet, il y a beaucoup de représentations, des couleurs, des dorures, on va voir tout ça. Hein.
Oui.
C'est très figuratif.
Voilà, beaucoup de mouvements, quelque chose de très envolé, de très virevoltant, quelque chose de très théâtral aussi, hein, avec des décors très riches qui impressionnent beaucoup.
Et donc, on n'est pas très sûr, hein, concernant le terme, de son étymologie, comme on dit parfois, c'est-à-dire de son origine.
Oui, on a souvent mis en avant des termes issus de l'espagnol barroco ou du portugais barroco. Voilà. Il y a plusieurs théories. On parle aussi d'origine latine ou de langue arabe. Voilà. Ça reste un peu mystérieux, mais en tout cas, ça qualifie bien cet élan artistique des XVIIe, XVIIIe siècles.
Alors cet art baroque, on va le voir, est très présent dans nos édifices, nos lieux de culte, et c'est presque même parfois détonnant, parce qu'il y a la simplicité de l'environnement, des villages, et même des églises parfois, et puis quand on entre à l'intérieur, on va voir qu'on a des décors exceptionnels, extraordinaires. Est-ce qu'on sait, sans faire une grande leçon d'histoire de l'art, de quand date cet art baroque ?
Alors, il est vraiment, c'est un art qui naît dans l'Italie au tout début du XVIIe siècle, dans les années 1600, qui va peu à peu et même assez rapidement s'étendre à tous les pays, à tous les royaumes d'Europe à cette époque-là. Et c'est vraiment une volonté aussi de l'Église catholique romaine d'employer cette nouvelle façon de figurer les décors des églises.
Nous allons nous intéresser aux artistes, parce que l'art est d'abord incarné, mis en œuvre par les artistes. D'ailleurs, la plupart d'entre eux, on va le voir, ne se nomment pas artistes hein, au moment où ils exercent leur art. Ils sont sculpteurs ou, que sais-je, peintres.
Oui, c'est vrai que le terme, même pour ces praticiens, enfin, avant tout, ce sont pour eux-mêmes, ce sont des artisans, ce sont des maîtres sculpteurs. En fait, et le terme d'artiste, il apparaît très tard, il apparaît à la fin du XVIIIe siècle, et ce sont vraiment les derniers représentants qui adoptent ce terme pour se qualifier.
Thibaut de Rouvray, on veut des noms. Alors, quels sont ces artistes qui ont sévi dans la région ?
Alors, c'est vrai que parfois, ce qui est un peu frustrant pour les chercheurs, c'est que la plupart des retables ne sont pas toujours identifiés. Leur sculpteur n'est pas toujours connu, parce qu'il faut trouver les documents qui permettent de les attribuer. Mais voilà, on a quand même quelques grands noms. Je pense au sculpteur Pierre Affre, qui intervient dans la région de Toulouse au début du XVIIe siècle, qui a réalisé beaucoup de décors dont tous ne sont pas conservés. Mais il y a une très belle illustration de son travail au sanctuaire de Garaison, dans les Hautes-Pyrénées.
Oui, d'ailleurs, ceux qui ne connaissent pas ce sanctuaire, allez-y. Lieu d'apparition, sanctuaire magnifique s'il en est. Et donc, Garaison, c'est également un établissement scolaire.
Voilà.
Il y a d'autres noms que vous pourriez citer qui concernent aussi des édifices de la région ?
Oui, alors on peut parler d'artistes, de personnages qui sont à la fois sculpteurs mais aussi architectes. Je pense à Pierre Souffron ou à Pierre Mercier qui interviennent à la fois dans les cathédrales de Hoche ou de Toulouse. Donc ils dirigent vraiment l'ensemble des travaux qui ont une bonne connaissance des différents corps de métier.
Et puis encore d'autres sans doute parce que chacun là où il est a peut-être un nom en tête. Alors on ne va pas tous les citer, il y en a quelques-uns qu'on peut encore citer.
Ça. Oui, dans la peinture toulousaine, on a l'exemple des Rivals aussi père et fils. Donc Jean-Pierre et surtout Antoine dont de nombreuses œuvres peintes sont présentées au musée des Augustins. Gervais Drouet aussi. Et parfois aussi des artistes qui sont venus d'un peu plus loin. Les Mazzetti par exemple qui sont des Italiens du nord de l'Italie qui ont ont réalisé de nombreux décors en marbre des hôtels et des anges également.
Si on regarde en Bigorre, par exemple, il y a un nom qui revient sans cesse, c'est Ferrer. Il
oui.
fait partie de ces artistes hein, dont nous parlons. Alors là, c'est dynastique.
Tout à fait. Les Ferrer, ce sont plusieurs générations de sculpteurs. C'est effectivement la dynastie qui va durer le plus longtemps dans la Bigorre, hein, puisque, en gros, le premier qu'on découvre date des années 1650 et dernier représentant, il est encore en activité au début du 19e siècle.
Il y a d'autres noms, par exemple, puisqu'on s'attache à cette terre de Bigorre, de personnages qui ont vraiment, grâce à leur art, façonné nos lieux de culte, nos édifices.
Oui, dont on peut encore admirer le travail. Je pense à Egui Corot ou à Jean Brunelot qui ont travaillé à Côte-d'Oussan, à Pouzac, à l'église de Saint-Jean de Tarbes aussi pour Brunelot. Et puis d'autres petites dynasties qui n'ont pas duré aussi longtemps que les Ferrer, mais je pense à la famille Soustre ou à celle des Claveries qui est vraie à Lourdes.
Et tout cela s'arrête quand? Parce que, entre guillemets, tout a une fin. Hein. On sait très bien que l'art baroque aujourd'hui ne se déploie plus. Mmh. On l'admire. Mais on n'a plus d'artistes qui sont capables de faire des retables comme on les connaît hein, dans un certain nombre de nos églises.
Alors ces sculpteurs, en fait, cette tradition, ce métier, il survit à la Révolution, puisque même dans les premières décennies du 19e siècle, il y a besoin de réaménager, de redécorer des églises. Et on a encore des sculpteurs dans les Hautes-Pyrénées, dont la famille Abadi, père et fils, qui sont peintres, sculpteurs, d'horreur. Et aussi à Bagnères de Bigorre, on a l'exemple de la famille Mainviel, avec une particularité, c'est que lorsque le sculpteur Pierre Mainviel décède, c'est sa veuve, son épouse, qui prend en main l'atelier, ce qui est assez exceptionnel pour l'époque dans ce type de travail.
Le 19e siècle, c'est la grande période de l'industrialisation. Est-ce que ça impacte les artistes baroques ?
Oui, parce que voilà, le goût change, on veut revenir plutôt à du néo-gothique, du néo-roman. Il y a aussi la révolution industrielle, donc on a à faire face à beaucoup plus de produits manufacturés qui sont fabriqués en série, qui sont mis sur le marché. Il y a des catalogues aussi pour acheter ces produits qui sont distribués auprès des prêtres. Et puis il y a le chemin de fer aussi qui va permettre d'exporter très loin des réalisations. Donc peu à peu, nos sculpteurs, ils vont disparaître.
Oui, et puis les artistes baroques travaillent sur certaines matières, alors lesquelles? D'ailleurs, pas particulièrement les matières dures, d'abord des matières plus tendres.
Oui, alors ils utilisent beaucoup le bois. Alors c'est vrai que dans des régions comme les Pyrénées, c'est un matériau qui est très facilement disponible. Le marbre, ils l'utilisent très peu parce que c'est souvent un matériau qui est utilisé de façon privilégiée par les souverains, par le roi. Donc le marbre part souvent très loin des Pyrénées. Donc c'est vraiment voilà, le bois, ça peut être la toile peinte, les tableaux et aussi le gypse, le plâtre, hein, le décor de stuc.
Mais on a quand même des sculpteurs qui se sont saisis de la pierre et du marbre pour faire de l'art baroque.
Oui, voilà, on en a quelques exemples parce que parfois on arrivait à obtenir quelques blocs de marbre. Donc c'est le cas de la famille Nelli, par exemple. Alors ce sont souvent des Italiens d'ailleurs, hein, les Nelli et Mazzetti, qui ont pu réaliser des décors et des objets liturgiques en marbre.
Oui, et puis il y a des fabriques à Toulouse à ce moment-là également. Bref, en tout cas, ces artistes baroques qui se nomment pas comme tels, on sent bien qu'après 1850, les temps changent.
Oui, voilà, c'est un peu la fin pour eux. Et effectivement, il y a l'exploitation à grande échelle de marbreries comme celle de Bagnères avec la famille Gérusée ou aussi le marbre de Saint-Béat et des marbriers toulousains comme la famille Barreau. Donc, ils vont un peu inonder le marché et rendre obsolète le travail des sculpteurs.
On va passer peut-être assez rapidement en revue les réalisations. Là encore, on a parlé tout à l'heure de retables. L'art baroque ne s'applique pas qu'aux retables. On va en parler, mais pas seulement. Il y a aussi ce qu'on appelle des baldaquins. Alors ça, c'est quand même très ostentatoire, c'est visible.
Oui, tout à fait, ce sont des éléments, voilà, des sortes de petits temples hein, avec des colonnes donc, qui souvent dominent le maître-autel et que l'on voit de très loin, qu'on voit en général dans des églises assez imposantes. Alors quelques exemples, à Saint-Géniès-d'Olt dans le Nord-Aveyron ou à Beaumont-de-Lomagne, et aussi dans les Hautes-Pyrénées, à Aurignac, un très beau baldaquin qui vient de l'ancien couvent de Capucins de Médouce et bien sûr à cathédrale de Tarbes.
Bon, il y a des retables remarquables hein, qu'il faudrait voir dans la région. On peut en citer quelques-uns.
Oui, toujours une sélection, hein, mais j'aime beaucoup celui de la chapelle des Pénitents Noirs avec Franche de Rouer, qui a un développement impressionnant. Il y a aussi à Portée sur Garonne, à Pouzac, près de Bagnères de Bigorre, et puis bien sûr dans les cathédrales comme Toulouse et Auch, où il y a un emploi de la pierre et du marbre assez important.
Bon, je rappelle qu'avec vous, Thibaut de Rouvray, nous parlons de l'art baroque en Occitanie, en particulier l'art baroque tel qu'il s'est exprimé dans nos édifices, dans nos lieux de culte. Et nous en étions là à regarder quelques belles réalisations. C'est d'ailleurs un encouragement pour tout un chacun à s'y rendre. Et il y a ce qu'on appelle des ensembles complets parfois, parce que jusque-là, on parle de baldaquin, de retable. Qu'est-ce qu'un ensemble complet ?
Alors, c'est dans une église, pratiquement toute la décoration, en gros, du pavé jusqu'à la voûte, et parfois même incluant la voûte, a été décorée à cette époque-là. Donc, c'est toute la surface est recouverte de décors.
Oui, alors là-dessus, peut-être qu'on peut donner quelques exemples
oui,
dans notre région.
Dans le Lot, par exemple, à Notre-Dame-de-Pitié, une ancienne salle capitulaire à Figeac, qui est décorée de lambris, de boiseries représentant des scènes de la vie du Christ. L'ancienne cathédrale aussi de Castres, la cathédrale Saint-Benoît ou celle de Saint-Papoul. À la chapelle, c'est une petite église assez modeste dans le Tarn-et-Garonne, mais où il y a plusieurs étages de tribunes qui ont un aspect très, très théâtral. À Tougouze, la chapelle des Carmélites aussi a un décor de plafond, de fausse voûte à clé pendante entièrement peinte. Et puis pour terminer, peut-être à Castelnaudary, à Notre-Dame-de-Pitié, à Garaison, on en a parlé, ou autre sanctuaire marial des Pyrénées, à la chapelle de Poulain.
Voilà, ces noms, retenez-les si c'est possible pour vous, ou réécoutez en replay cette chronique pour noter quel pourrait être votre prochain itinéraire de visite dans la région. Bon, on a parlé de quelques exemples de réalisations. Vraiment, les artistes du baroque ont appliqué leur savoir-faire à une très grande diversité de réalisations. On peut
oui,
pas tout citer.
Voilà, mais voilà, un peu un inventaire à la Prévert, mais c'est vrai qu'on a parfois moins à guider, mais il faisait aussi des devants d'hôtel, bien sûr les chaires à prêcher, des buffets d'orgue aussi, et puis aussi tout ce qui était statuettes de dévotion, de petits formats pour la dévotion privée ou pour les confréries, et tout ce qui est reliquaire, plat de quête, et ils œuvraient aussi pour les particuliers avec du mobilier civique, des escaliers, des meubles, des boiseries.
L'art baroque en Occitanie, eh bien, de nombreux exemples se trouvent dans nos édifices. On vous invite à le redécouvrir, cet art, avec derrière tout cela ce travail extraordinaire d'artistes les plus divers. Merci beaucoup Thibaut de Rouvray. Je rappelle que vous êtes historien et président de la Société académique des Hautes-Pyrénées. À
Merci,
très vite.
Mathias Thierry.
Au revoir.
Au revoir.